Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi le 3 mai et vous êtes à l'émission Les Voix de Service Magazine et je suis superbement bien entouré avec Marie Lalande.
Bonjour, bonjour.
Monique Kerouac.
Bonjour.
Et l'autre côté de la vitre avec Mathieu Tessier qui nous dit bonjour.
Bonjour.
En nous tournant le dos.
Oui, c'est ça. Alors Marie et Monique, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Alors moi, je vais vous présenter des moyens qui sont utilisés dans prévenir le décrochage scolaire dans cette semaine.
C'est pas mal d'actualité,
oui, c'est
ça,
tout à fait d'actualité. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter un papa qui se préoccupe d'apprendre l'empathie à son fils.
Ah oui, ça arrive.
Oui.
Ça arrive. Monique?
Alors de mon côté, eh bien, la thématique peut-être, ça sera le bien-être...
Qui ça? Ah, OK.
On s'excuse.
On s'excuse.
Excusez-moi.
Petite difficulté technique.
Oui, je ne comprenais pas ce qu'on me disait de l'autre côté. Je l'avais même pas, j'y avais pas touché. Donc, un premier article qui répond à deux questions relatives à la cigarette.
Ah bon?
On se posera les questions tout à l'heure.
Oui, c'est
ça. Et dans un deuxième article, on traite d'ostéopathie qui pourrait soulager la douleur chronique, selon certaines recherches.
Oh, ça, c'est intéressant, ça.
Oui.
Moi, de mon côté... ça arrive des fois qu'on dit « je vais aller prendre une marche » ou « je vais aller faire un tour de vélo ». Alors moi, je vous raconte deux histoires de quelqu'un qui a pris une marche, quelqu'un qui a fait un tour de vélo. Un peu long.
Un peu long.
Dans les deux cas.
Dans les deux cas, oui.
Alors mon cher Mathieu, c'est notre menu pour aujourd'hui. On part ça. Monique,
oui.
Il faut que tu saches que je n'ai jamais fumé quoi que ce soit de ma vie.
Oui.
Et le plus proche que je suis arrivé d'une cigarette, c'est une cigarette en bonbon.
Ben, c'était déjà pas très bon pour la santé. C'est trop sucré.
Même là.
Je n'en démords pas, cher Yvan.
On gagne jamais.
On gagne jamais, non. Tu ne gagnes jamais.
Alors, vas-y, Monique.
Alors, sous la plume de Nathalie Picard pour la revue Science et Vie de mars-avril-mai 2018.
Mars-avril-mai.
Oui,
c'est un bel éventail.
C'est ça.
On prend pas de chance.
C'est ça, exactement. Ça s'intitule « Les images choc des paquets de cigarettes sont-elles efficaces? » Première question.
Ont-elles sèches ou...
ou archi-sèches. Oui, c'est un bon exercice. Hein? Pourquoi les gens conscients des effets néfastes du tabac continuent de fumer? Et ce, malgré les images repoussantes qui figurent sur les paquets depuis, entre autres en France, depuis 2011. Un éclairage a été apporté en 2016 par Stéphane Potvin, qui est neurologue spécialiste des effets des drogues sur le cerveau de l'Université de Montréal.
Okay.
Alors, vous voyez, même une revue française nous ramène toujours à l'Université de Montréal. Je ne fais pas exprès. Hein. Alors,
je pensais que tu étais là pour ça.
Ils m'ont payé très cher pour être là. Son équipe a présenté à 30 fumeurs chroniques deux types d'images sur le tabac, positives et négatives, et observé leur réaction par imagerie cérébrale. Ça aussi, c'est récurrent dans les textes, l'imagerie cérébrale. Premier résultat, les images agréables activent des régions spécifiques du cerveau qui ne s'activent pas avec des images anti-tabac. Il s'agit par exemple du cortex préfrontal médian ou du précuneus, des aires correspondant à la mémoire autobiographique, le souvenir des événements passés et la connaissance de soi, et au processus de réflexion sur soi. Ce qui nous fait penser que seule une vision positive de la cigarette entre en résonance avec la vie du fumeur, analyse donc le chercheur. Une surprise car il s'attendait plutôt à une différence au niveau du système de récompense qui déclenche la sensation de plaisir dans le cerveau et dont la place est centrale dans l'addiction. Second résultat, les images choc provoquent tout de même des émotions négatives, mais moins que des photos de guerre censées provoquer le même niveau de rejet. Comme si pour les fumeurs, ce qui concerne la cigarette n'était pas si repoussant.
Mm-hmm.
Ce qui rejoint les résultats de la psychologie sociale, une personne dépendante devient à la fois hypersensible aux stimulations positives liées à la substance et moins sensible aux effets négatifs. Mmh. À quoi est due cette sensibilité moindre? Eh bien, les chercheurs canadiens ont une hypothèse. Dans le cerveau des fumeurs, face à des images anti-tabac, ils ont observé à la fois une forte activité du cortex préfrontal et une absence d'activité de l'insula, qui est une zone impliquée dans les émotions. Ils pensent qu'il s'agit là d'un indice que le cortex inhibe l'insula. Autrement dit, le cerveau des fumeurs serait désensibilisé sur le plan émotionnel face aux effets néfastes du tabac. Par quel mécanisme? Eh bien, le tabac lui-même en est-il responsable? Ces travaux ouvrent de nouvelles pistes de recherche sur les mécanismes cérébraux de la dépendance au tabac, commente le neuropsychologue Francis Eustache. Il faudrait poursuivre avec des échantillons plus larges et combiner l'imagerie avec des études comportementales. De quoi expliquer le relatif échec des avertissements visuels sur les paquets de cigarettes et à terme les remettre en cause? Les autorités ont, elles, décidé d'augmenter leur visibilité. La plupart des études basées sur des questionnaires déclaratifs montrent que ces images choc suscitent des émotions négatives qui peuvent donner envie d'arrêter, d'où leur place renforcée sur le paquet neutre. Mais ces études déclaratives restent limitées pour mesurer les émotions. En attendant, d'autres travaux basés sur l'imagerie médicale restent au moins à espérer que les images choc dissuadent les non-fumeurs commencer.
C'est ce que je pensais.
Ouais. Oui, finalement, il y a comme un effet positif, mais c'est très intéressant de voir que sur les fumeurs,
ça n'a pas d'effet.
Ça
n'a pas beaucoup d'effet.
Alors nous, ça nous répugne.
Ça n'a tellement pas d'effet qu'ils ne réagissent pas à l'image.
Non, ouais. Exactement. Ça ne les effraie pas du tout. Alors l'autre question.
Oui.
Pourquoi prend-on des kilos quand on arrête de fumer?
Oui, ça, c'est préoccupant.
Oh, je peux dire qu'on prend des kilos même quand on
arrête
de fumer.
Mais c'est ça, mais c'est parce qu'on mange des cigarettes en bonbons. Effectivement, les fumeurs prennent en moyenne 4,7 kilos quand ils arrêtent de fumer.
Mais en combien de
temps? Une étude...
Après avoir arrêté.
Oui, mais j'espère pas la semaine après quand même.
Ben, ça prend un certain temps quand même. Là. Montrait une étude, je disais donc, menée à la faculté de médecine Paris-Sud. Cette prise de poids est-elle la conséquence d'une augmentation des prises alimentaires? Oui, mais pas seulement. Certes, pour compenser l'arrêt du tabac, les ex-fumeurs mangent plus. Mais si l'on grossit lorsque l'on arrête de fumer, c'est aussi parce que la nicotine augmente les dépenses énergétiques en élevant le rythme cardiaque et l'activité générale du métabolisme. Mmh. À l'arrêt du tabac, ces calories qui ne sont plus dépensées deviennent en trop.
C'est ça.
Oh.
Par ailleurs, des chercheurs suisses ont découvert en 2013 une autre origine possible. Le microbiote intestinal ou flore intestinale, c'est là que l'on peut voir une origine autre. Donc, ils ont montré que l'abandon de la cigarette transformait la nature des bactéries présentes dans l'intestin. Ce nouveau microbiote, qui permet de mieux digérer et d'utiliser plus efficacement l'énergie contenue dans les nutriments, favorise également l'accumulation de graisse. Donc, rassurez-vous, cependant, la prise de poids intervient surtout au début du sevrage. Un an après l'arrêt, un ancien fumeur a tout de même 25 % de chances de perdre du poids. S'il arrête de manger, peut-être. Mm-hmm.
Oui,
car il modifie,
fait l'exercice aussi.
Oui, voilà. Car il modifie aussi souvent son hygiène de vie. Voilà. Mm-hmm. Ou d'avoir pris moins de kilos. Voilà.
Okay.
Alors, c'était donc un article de Nathalie Picard pour la revue Science et Vie de mars-avril 2018.
Oui, je suis prête.
Oui, elle est prête.
Mais oui, répond-elle.
Ben voyons.
Alors... Ça va bien ce matin, ça va très, très bien.
Alors Marie, hier, dans la Presse Plus, il y avait un article choc qui montrait que le taux de diplomation au Québec était vraiment très, très faible.
Mm-hmm.
Pour les garçons, en particulier.
Mais même pour les filles, comparativement.
Oui, comparativement.
Oui, puis dans cette étude, on faisait état des résultats des élèves au secondaire.
Oui, oui.
Alors, avant de commencer la lecture, donc au tout début, je fais lien avec la question que tu me poses. Dans l'article que je vous lis, la personne, la chercheuse en question, dit « On met beaucoup d'efforts sur la prévention du décrochage à l'école secondaire, mais on oublie souvent que l'on commence à perdre des élèves dès les premières années du primaire. »
Oui,
alors, cet article que je vous présente, le titre, c'est « Prévenir le décrochage de la maternelle ». C'est un texte de Jean-François Ducharme, publié dans Inter, le magazine de l'Université du Québec à Montréal, cette fois-ci, de l'édition de printemps 2018. Donc, c'est un article où on présente des pratiques pédagogiques qui améliorent de façon significative les premiers apprentissages en lecture et en écriture.
Et qui ont fait leurs preuves?
Tout à fait. Alors, imaginez-vous qu'on est dans une classe de première année. L'enseignante dit « Aujourd'hui, notre lettre vedette est le F. » Elle annonce donc ça à ses élèves. On est à l'école primaire Adrien Gamache de Longueuil et la séance débute par l'écoute d'une chanson. Elle demande l'enseignante « Quel mot avec le son F avez-vous entendu dans la chanson? » « Foulard », lance Eliane. « Foyer », dit Hubert. Et l'enseignante demande « Que se passe-t-il dans votre bouche quand vous faites le son F ?» Avec un peu d'aide, les enfants découvrent que leurs dents du haut touchent leurs lèvres inférieures, que leur bouche est légèrement ouverte. Là, je vous imagine, auditeur en train de placer... Alors voilà, on continue. Que leur bouche est légèrement entrouverte, que leur corde vocale ne vibre pas, contrairement au son V, et que leur langue est cachée derrière leurs dents. Conçue par des chercheurs de la Faculté des sciences de l'éducation à l'UQAM, cette activité vise à développer deux habiletés chez les élèves. La conscience phonémique, c'est-à-dire la capacité à manipuler les sons de la langue orale, et la compréhension du système alphabétique, soit de comprendre que les lettres servent à représenter des sons. Le développement de ces habiletés fait partie d'une stratégie pédagogique qui a pour but, de prévenir les difficultés d'apprentissage. Après leur avoir fait découvrir ce que fait le son « f » dans la bouche, l'enseignante lit à ses élèves l'histoire de Monsieur F. Lorsqu'il gonfle les pneus de sa bicyclette, on entend les sons « f ». Alors, l'enseignante dit « Je vais dire des mots et si vous entendez le son « f », vous devez mimer le mouvement de la pompe qui sert à gonfler les pneus de la bicyclette. Fourmi, les enfants imitent le mouvement de la pompe. Œuf, les enfants miment. Cheval, quelques enfants commencent à faire le mouvement, puis se ravisent à cause du V dans cheval. Très bien, leur dit-elle, vous n'êtes pas tombés dans le piège. La leçon se termine par une série d'exercices en groupe qui visent à approfondir la maîtrise de la lettre vedette, trouver dans quelle syllabe se trouve le F, identifier les mots qui riment, différencier le son F des sons CH, V ou S. Les séances en classe régulière et avec l'orthopédagogue pour les élèves qui en ont besoin ont lieu 4 fois par semaine à raison de 25 à 30 minutes par séance dans chacune des classes de première année de l'école. Des activités similaires, adaptées aux plus petits, se déroulent aussi dans les classes de maternelle. Située dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la commission scolaire Marie-Victorin, l'école primaire Adrien Gamache affiche l'indice de défavorisation maximale, c'est-à-dire 10, sur une échelle de 10. Elle accueille aussi de nombreux élèves allophones. Plusieurs enfants possèdent un niveau de vocabulaire inférieur à la moyenne lorsqu'ils entrent à la maternelle. Certains ne savent pas comment tenir un crayon ou dans quel sens tourner les pages d'un livre, indique Lynn Laplante, la professeure au département de didactique des langues de l'UQAM que je citais en début de l'intervention. En 2012, la chercheuse a approché la directrice de l'école pour lui proposer de participer à un projet de recherche. Durant 2 ans, on a expérimenté avec les élèves des programmes de prévention des difficultés des apprentissages en lecture et en écriture, la forêt de l'alphabet en maternelle et l'itinéraire en première année. Ces programmes s'appuient sur le développement d'habiletés fondamentales qui forment les 5 piliers de la réussite en lecture et en écriture, souligne Lynn Laplante. Le premier pilier est la conscience phonémique et la compréhension du système alphabétique, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, deux habiletés intrinsèquement reliées. La deuxième est l'habileté à décoder les mots écrits. La troisième, le vocabulaire, soit le nombre de mots dont on connaît le sens. La quatrième, c'est la fluidité, c'est la rapidité et la précision en lecture. Le cinquième pilier, finalement, est la compréhension de ce que l'on vient de lire. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des enfants qui décodent très bien ce qu'ils lisent, mais qui ne comprennent rien de ce qu'ils lisent.
Oui, bien sûr, oui. Des adultes aussi, d'ailleurs.
Et plein d'adultes aussi. Oui, et d'ailleurs, les études dont Yvan parlait tout à l'heure vont dans ce sens-là. Mm-hmm. C'est ça qui est décourageant. En maternelle et en première année, les programmes de prévention des difficultés, que ce soit la forêt de l'alphabet, l'itinéraire ou d'autres qui ont le même objectif et qui ont été mis de l'avant par d'autres universités, on pense à Abracadabra, Locomotive, Apprendre à lire à deux, Le sentier de l'alphabet et Les mots de l'IMO. Donc, tous ces programmes mettent beaucoup l'accent sur la conscience phonémique, la compréhension du système alphabétique et le décodage. Au-delà du matériel pédagogique utilisé, le rôle des enseignants est fondamental. Chaque habileté doit être enseignée de façon explicite et systématique. Le projet de recherche à l'école Adrien Gamache s'est déroulé en 2012-2013 pour les élèves de maternelle et en 2013-14 pour la même cohorte d'élèves en première année. Les résultats étaient très révélateurs, affirme Mme Laplante. Lorsque cette cohorte est arrivée en troisième année, les enseignantes pouvaient clairement distinguer les élèves qui avaient participé à la recherche de ceux qui n'y avaient pas participé. Et ce n'est pas un cas isolé. Une école primaire de la Commission scolaire de Montréal a participé à la même recherche avec des résultats similaires. À la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, qui montrait un taux de décrochage élevé, les 91 classes de maternelle ont adopté en 2007 la forêt de l'alphabet. Le programme Apprendre à lire à deux a quant à lui été introduit en première et en deuxième année. Le taux de réussite des élèves de sixième année en lecture et en écriture est passé de 75 % au milieu des années 2000 à plus de 90 % en 2016. Alors ça, c'est assez intéressant. Madame Laplante citait aussi cette phrase qui m'a beaucoup impressionnée. « Lorsque tu vis des échecs et que tu présentes des résultats scolaires à 7 ans, la motivation en prend un coup. » Alors, de là l'intérêt de mettre en place ces programmes dès le départ pour prévenir le décrochage et les difficultés. Alors, c'est un article intéressant de Jean-François Ducharme qu'on peut trouver dans le magazine Inter, le magazine de l'Université du Québec à Montréal.
Merci beaucoup, Marie.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. En pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain, pourtant tout allait bien. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas, je la laisserai là, cachetée silencieuse. Silencieuse, je ne risquerai.
chanson dans la catégorie qu'elle n'est non, la chanson pas assez longue. Excusez-moi, je bafouille. Albin de la Simone, j'aime lire.
Merci. Alors moi, de mon côté, je vous avais promis deux histoires de gens qui sont partis puis qui sont partis un bon bout de temps. Alors je commence par la première. C'est une chronique de Patrick Lagacé dans la presse du 21 avril. Ça s'appelle Marche, Johnny Marche. Jean-David Pelletier marche 30 km par jour sur la 132 et sur la 138 direction Rimouski.
Combien de kilomètres par jour?
30 km par jour.
Aïe, aïe, aïe.
Mais il a fini. Mais bon. Il a fait ça. Pourquoi Rimouski? Il voulait partir de Montréal, faire 30 km par jour pendant 30 jours. Ça donnait Rimouski comme destination. Ce sera le printemps, se disait Jean-David. Le temps sera plus doux. Mais c'est le pire mois d'avril de ma vie.
Ouais,
si j'étais parti en février, j'aurais eu le même temps. Deux tempêtes de neige, du verglas, du grésil et du vent. Du vent!
Il n'était pas tout seul à subir ce temps.
Non, mais nous, on était parfois dans nos maisons.
On ne marchait pas 30 km par jour.
C'est vrai.
J'ai joint, là, c'est Patrick Lagacé qui parle, j'ai joint Jean-David, alias Johnny D, au téléphone à la Pocatière. Il prévoyait arriver à Rimouski vendredi le 27 avril. Juste un petit changement. Merci. C'est quoi le pire, Johnny? Le verglas ou la neige? Le grésil. Avec un vent de face à 80 km, le grésil, ça peut t'égratigner une cornée. C'est comme une tempête de sable. Jean-David Pelletier a fait une escale au Salon du Livre de Québec pour la promotion de son livre « La folle tournée de Johnny D. » Je vous donne le titre aussi. Il y a un titre principal qui est « Les cocottes du vilain sapin », vous allez savoir pourquoi tantôt, qui relate un autre trek, celui qu'il a fait de Rome à la Sicile début 2016.
C'est un marcheur professionnel.
Oui, il marche vraiment beaucoup. 1047 km dans les campagnes italiennes après avoir fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tant qu'à marcher jusqu'à Rimouski et à documenter l'aventure sur sa page Facebook, Jean-David a décidé de faire œuvre utile et de transformer son trek vers Rimouski en campagne de financement pour la Fondation Jeunes en tête, qui a pour but de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans. Objectif, 10 000 $. Puis je peux vous dire, je suis allé voir le site hier, il restait deux jours, il est rendu à 10 200 $. Je sais c'est quoi être aux prises avec la maladie mentale à l'adolescence. À 13 ans, j'étais en désintox. À 14, j'étais en centre d'accueil. Je te dis, dans les tempêtes, sur le bord de la 132 et de la 138, si j'avais pas eu la cause des jeunes en tête, j'aurais viré de bord. Johnny D, c'est son pseudonyme, était donc en route avec son chien Billy Bob, son fidèle compagnon depuis 13 ans. Billy Bob l'a accompagné partout, en tournée avec Cavalia, dans les bureaux de Juste pour rire, dans les hauts, dans les bas. Je n'ai pas traîné Billy Bob en Italie et je l'ai regretté. Je m'ennuyais de lui chaque jour. C'est pour ça que j'ai voyagé avec un âne, parce que je m'ennuyais de Billy Bob.
Un âne.
Attends, un âne? Oui, j'ai loué un âne en Italie. C'était en Sicile, où il semble que ces bêtes-là sont à louer pour accompagner les marcheurs. Et c'est ainsi que Johnny D a loué un âne du nom de Taco pour marcher pendant 3 jours. Chiara, la locatrice, a prévenu Johnny D. Un âne, c'est con.
Ouais.
Mais Johnny D était accroché à la carte postale romantique dans sa tête.
Ah oui.
Lui et l'âne communiant dans les plaines siciliennes. Et il est parti avec l'âne. Et un âne, en effet, c'est vraiment con.
Mais c'était têtu.
Ça arrive.
Jusque
ça arrive devant une flaque d'eau et ça peut mettre 5 minutes à penser comment ça va contourner la de flaque. D'habitude, ça me prend 6 heures marcher 30 km. Avec un taco, ça m'a pris 12 heures le premier jour.
Aïe, aïe, aïe.
Et un âne, ça a peur de tout, en plus d'être con. L'âne a pris peur quand lui et Johnny ont été attaqués par un chien. Dans la cohue, notre marcheur a échappé le licou de Taco qui s'est sauvé dans la plaine sicilienne. Pas moyen de le rattraper. Jean-David tentait de l'attirer, lui criait après, tentait de l'amadouer, mais l'âne se sauvait encore plus loin. 3 heures à courir après Taco, j'en pouvais plus. C'était burlesque. J'ai fini par le rattraper, mais là, il refusait d'avancer. En fait, il avançait juste quand j'étais devant lui. Quand tu lui faisais face? Oui, je suis rentré à la ferme en faisant du moonwalk. Mais à quelque chose, malheur est bon, comme dit un vieux Sicilien, et Taco, l'âne, a mené Jean-David dans le village de Scoclidi, dans la côte, sur la côte ouest de la Sicile, où Johnny D a rencontré Gaetano, qui est devenu un ami pour la vie. Un pèlerin de compétition qui a fait Compostelle, la muraille de Chine. Gaetano lui a refilé quelques beaux sentiers tracés par les Grecs. Fait que Jean-David s'est fait tatouer Taco, l'âne de Sicile, sur l'avant-bras. Son métier, c'est relationniste. Il gère les médias pour des clients. Vous vous souvenez du sapin laid du quartier des spectacles? C'est Jean-David qui a géré les relations publiques de ce sapin fiasco. Il en est sorti un peu vidé, pour plein de raisons, et le trek de 3 mois en Italie était une façon de se nettoyer le système. Marcher comme ça, Johnny D, c'est comme rien, tu dois fuir de quoi? Non, au contraire, quand tu marches, tu réfléchis en tabarouette. J'ai plus l'impression de marcher vers quelque chose. Jean-David ne fuit donc rien en marchant vers Rimouski, sinon peut-être quelque chose comme une petite peine en suspens, l'anticipation d'une douleur inévitable, celle du deuil de Billy Bob. Billy Bob a 13 ans. Et ce trek, c'est un peu le dernier voyage, les adieux qu'on se fait. À Rimouski, le 28 avril, Johnny D s'est fait tatouer la patte de Billy Bob sur l'avant-bras. Et on vous laisse pendant quelques instants et on vous revient avec d'autres articles.
Canal M.
La terre tremble à l'autre bout de la planète, alors que chez moi le calme plat terrasse. D'autres guerres charrient la mort violente. Et moi qui regarde en paix, mangeant des glaces. Ah, s'il y avait une échelle de la douleur, je connaîtrais le degré de ma souffrance. Est-ce que la douleur de celui qui n'a rien se compare à celle de qui a tout perdu? Quelle est la douleur la plus forte du monde? Je crois que la douleur pourrait être revue, car dans la revue, le mal me paraît pâle. Face à la douleur palpable qui palpite en mon cœur. Il y a tant de choses présentées comme nouvelles. L'essentiel en deviendrait le négligeable. Non pas que la mort soit en fait exotique ou trop lointaine pour être véritable, mais dans la confusion des sentiments, devant la futile princesse et son amant, on commence à croire au tremblement de terre. Lorsque la télé tombe de l'étagère, et dans la confusion des sentiments, devant la futile princesse et son amant, on commence à croire au tremblement de terre. Lorsque la télé tombe de l'étagère,
et sa chanson « L'échelle de la douleur ».
Oh, « L'échelle de la douleur », ça c'est intéressant parce que justement dans le premier article de la deuxième partie, on va parler de, euh, de l'ostéopathie puis du soulagement de la douleur. Mais avant ça, on a connu une première partie d'émission assez enlevante.
Alors, on est comme dans une classe d'élèves quand il va arriver une tempête, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous lis un petit mot d'enfant. Sani, 7 ans, qui décrit ou qui définit le mot « énervement ». Pour aller dans l'ambiance, c'est l'état dans lequel on est quand on a le nerf de la fleur en peau.
Oh là là! OK.
Garde-la pas loin, celle-là, on pourrait la réutiliser.
Oui.
En attendant, on passe le micro à Monique,
oui,
qui va nous parler d'ostéopathie,
oui,
mais surtout de l'impact que ça peut avoir sur le traitement de la douleur chronique.
Exactement. Alors, c'est un article de Martin Lassalle pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 30 avril dernier qui s'intitule « L'ostéopathie peut aider à traiter la douleur chronique ». Alors, les traitements d'ostéopathie engendrent des changements directs et indirects quant à la perception qu'on a de la douleur et peuvent aussi contribuer à améliorer l'état des personnes souffrant de douleurs persistantes en raison de troubles musculo-squelettiques. C'est ce qui ressort d'une revue de la littérature effectuée par René Pelletier dans le cadre de ses recherches doctorales qu'il a menées à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal sous la direction des professeurs Daniel Bourbonnais et Joanne Higgins. M. Pelletier a scruté 207 études traitant des régions du cerveau en activité lorsque l'on ressent une douleur ainsi que des effets des traitements ostéopathiques sur ces régions. Le chercheur a commencé par documenter les modifications neuroplastiques dans le système nerveux central qui surviennent chez les individus qui souffrent de troubles musculo-squelettiques chroniques, telle la douleur au bas du dos.
Mmh.
La douleur est une perception et chez ces personnes, le caractère permanent de la douleur modifie la façon dont le cerveau l'aperçoit, explique M. Pelletier. Du latin « nocere »,« nuire » et « captere », »,« recevoir », le terme « nociception » peut sonner étrangement, mais tous en ont déjà fait l'expérience. C'est la fonction défensive par laquelle une stimulation susceptible d'endommager un tissu est transmise au cerveau qui évalue la douleur et réagit en conséquence. Alors, les études indiquent que dans le cas de la douleur chronique, la douleur peut être calmée en rééduquant certaines régions du cerveau, dont le cortex somatosensoriel primaire, et ce, avec des traitements comportementaux comme l'entraînement à la discrimination sensorielle, l'imagerie motrice et la thérapie du miroir. Si les bienfaits à court terme des traitements ostéopathiques sur la douleur chronique sont bien documentés, ceux à long terme sont plutôt méconnus. René Pelletier a donc examiné les études relatives aux mécanismes du cerveau en jeu dans la réduction de la douleur chronique lors de traitements ostéopathiques. Le chercheur a découvert que certains de ces mécanismes ne sont pas spécifiquement activés par l'ostéopathie et dépendent davantage du contexte du traitement, tout comme la perception, les attentes et les croyances du patient à l'égard du traitement lui-même. Donc, si vous ne croyez pas à l'ostéopathie, n'allez pas voir.
Ça ne marchera pas.
Et l'alliance thérapeutique entre le patient et le thérapeute. Donc, des dimensions fort importantes, mais dans toutes les situations, je pense, pas seulement celle de l'ostéopathie. Cette mécanique contextuelle entraîne des effets physiologiques qui découlent des processus cognitifs, affectifs et motivationnels du cerveau qu'on observe en ostéopathie, de même qu'en ergonomie ou en physiothérapie, ajoute donc M. René Pelletier. Par ailleurs, les manipulations manuelles qu'effectuent les ostéopathes contribuent à changer les informations sensorielles envoyées au cerveau par les muscles et les articulations endolories. Les études montrent que pour agir de façon durable sur les différentes régions du cerveau en cause dans la perception de la douleur, les traitements doivent être répétés pendant une certaine période afin de modifier le fonctionnement du cerveau lié à la douleur. Parce qu'on revient toujours à notre position initiale. Donc, les répétitions viennent chasser ces positions-là. De même, les manipulations doivent notamment viser les régions dysfonctionnelles et non seulement la douleur elle-même. Stimuler les récepteurs périphériques pour éveiller le processus sensorimoteur et reposer sur des exercices que le patient doit faire entre les traitements. Donc, on sollicite aussi le patient.
Le patient lui-même.
Enfin, certains amplificateurs de la douleur, comme la peur, l'anxiété, la somatisation, le catastrophisme et la dépression, peuvent aussi être atténués par l'approche de l'ostéopathe en collaboration avec d'autres fournisseurs de soins de santé. Ces interventions peuvent jouer un rôle pédagogique auprès de leurs patients quant à la nature des mécanismes de la douleur chronique et leur apprendre, entre autres, à reconnaître les biens qu'ils entretiennent relativement à la douleur. Les troubles musculo-squelettiques, qui comprennent les douleurs lombaires chroniques, touchent environ le quart de la population et constituent un problème de santé publique que l'approche biomédicale n'a pas été en mesure de régler, déclare René Pelletier, dans un article qui est tiré de ses travaux de doctorat. Donc, il est intéressant d'explorer d'autres voies que celles biomédicales. Selon lui, les approches biopsychosociales, dont les traitements ostéopathiques, peuvent aider à reconceptualiser la perception et les croyances à l'égard de la douleur à l'aide des mécanismes régulateurs homéostatiques qui aident à réduire la douleur et améliorer la fonction. Peut-être vous demandez-vous qu'est-ce que c'est que des régulateurs homéostasiques. Okay. C'est ce qui permet à un être vivant de conserver l'équilibre physiologique à l'intérieur de son organisme malgré des conditions extérieures contraires. Par exemple, garder notre corps à un niveau de température qui est 37 degrés malgré un froid intense. Alors, c'est ça. C'était donc un article du journal Forum rédigé par Martin Lassalle en date du 30 avril dernier. Donc, intéressons-nous à l'ostéopathie.
Oui, tout à fait.
Et n'oublions pas la méditation qui travaille aussi.
On a déjà parlé.
C'est un tout. Alors, de mon côté, il y a quelque temps, je vous parlais de Jonathan Béroy, qui a fait un long voyage à vélo à travers le monde. Alors, je vous reparle de lui maintenant dans un article qui s'appelle « Jonathan Béroy à la rencontre du monde » sous la plume de Jacques Sénéchal de Vélomag dans le numéro mai-juin 2018. Après avoir pédalé de l'Angleterre à la Malaisie en racontant de belles histoires, Jonathan s'est arrêté dans ce dernier pays pour travailler, mais aussi et surtout aux fins d'écrire un livre sur son périple et ses multiples rencontres. Il va sortir dans quelques jours ce livre sous les couleurs de Vélo-Québec Édition. C'est l'occasion d'une longue entrevue Montréal-Kuala Lumpur via Skype. Par souci de laisser le maximum de marge de manœuvre à cet homme loquace, je me suis contenté de lui suggérer quelques mots. Alors, on commence. Point de départ. Partir à l'aventure, c'est comme un muscle. Pendant une trentaine d'années, j'ai vécu des expériences de voyage qui ont été comme un entraînement. Puis je me suis dit qu'elles étaient suffisantes pour que je fasse le tour de la planète. Comme je voulais sortir des sentiers battus et être autonome en matière de déplacement, il me fallait un moyen de transport indépendant. Le vélo s'est imposé de lui-même. Le mot « vélo ». Je ne suis pas un athlète. À l'école, j'étais toujours le dernier choisi dans les équipes en éducation physique. Comme petite piqûre, j'ai travaillé dans un magasin de vélo. J'ai également voyagé à vélo avec mon père sur le Petit Train du Nord et au lac Saint-Jean. Aussi, je me suis mis au vélo de montagne, ce qui m'a permis de gagner en aisance. Je n'ai jamais été compétitif. C'est surtout le fait de circuler de manière indépendante qui me plaît. J'ai toujours eu du plaisir à vélo. Quand je reprenais en avril après la pause hivernale, j'en tremblais presque de bonheur. J'adore la sensation sur un vélo. On vole, il n'y a pas de bruit, deux roues et une chaîne suffisent pour se déplacer.
On vole. Oui. Les montées aussi, oui. On vole.
On vole. Solitude, un mot nécessaire, quelquefois sous-estimé. Je n'ai aucun problème avec la solitude. J'en profite pour réfléchir sur moi-même, sur la vie. Quand je pédale, le mouvement devient instinctif. Il m'arrivait souvent de m'évader dans mes pensées. Ça me prenait 5 bonnes secondes pour réaliser que je n'étais pas à la maison, mais sur une route à l'autre bout du monde. Adversité. Le pire ennemi, c'est souvent soi-même quand on se dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose.
De monter la côte.
Mm-hmm. Voilà.
De voler sur un vélo. Le vélo, c'est physique, quelquefois ardu, mais ce n'est pas impossible. C'est souvent un combat mental au cours duquel on se convainc qu'on peut le faire. Je n'ai jamais eu envie d'abandonner. Le moment le plus difficile, ça va être pour moi de lire le nom de du pays, le moment le plus difficile a sans doute été lorsque j'ai décidé de prendre un invraisemblable raccourci au Kirghizistan. Je n'avais plus d'eau, plus de réseau. J'ai poussé mon vélo pendant 10 heures pour franchir 9 kilomètres.
Aïe, aïe.
J'en ai parlé à mon frère après et il a conclu « N'essaie pas de te faire plaindre, je le sais que tu as aimé ça. » Lecture. Quand j'entends qu'au quotidien, on n'a pas le temps de lire, c'est faux. On a toujours le temps. Ça aide à imaginer les paysages, les aventures, tout en améliorant son vocabulaire. Ça aide à mieux penser. Mariage. Très important dans le monde, sauf au Canada et en Europe. On me demandait souvent quel était mon problème vu que je n'étais pas marié à 30 ans passés. On m'a fréquemment proposé de s'occuper de mon cas.
C'est gentil. Et c'est charmant.
Mais oui.
Moral, comme dans le moral. Pour garder le moral, j'écoutais des podcasts. Sans, j'aurais peut-être abandonné après 4 heures de route. Éthique. Je me suis posé la question à savoir si c'était éthique d'aller dans certains pays. Pour moi, dans un voyage individuel à vélo, on contribue directement à la vie des gens. Le restaurant où on s'arrête, l'endroit où on couche. Je montre souvent des photos que j'ai prises. Cela permet aux gens d'avoir une vision différente du monde. En fait, le monde devient plus petit pour eux, mais aussi pour moi. Admiration. J'admire les gens qui n'ont pas une vie facile. Le fermier du Tadjikistan qui cultive une terre aride, le berger ouzbek qui mène ses moutons ou pousse 3 brindilles. À la première journée de travail à leur place, j'abandonnerai. Mm-hmm. Pays contourné. Avec le recul, je ne contournerai aucun pays parce que chaque fois j'ai appris. Au Vietnam, le bruit est omniprésent partout. Finalement, je me suis arrêté de pédaler 1 mois afin de mieux découvrir ce lieu en restant dans une famille. J'ai établi 2 règles de fun. Le fun 1, c'est quand je roule sur l'asphalte lisse, qu'il fait beau et que le vent me pousse dans le dos. Le fun 2, c'est quand tout va mal, qu'il pleut et que je souffre d'hypothermie et que je risque de me retrouver en prison. Par contre, quelle bonne histoire à raconter quand c'est le fun 2 qui pogne. Je donne un exemple. Avec mon ami Fred, nous voulions savoir si c'était réellement interdit de dormir dans un monastère au Myanmar. Nous nous faisons inviter par les moines. Et le lendemain matin, la police est là et procède à une inspection en règle des passeports, interrogatoire corsé en prime. Fred m'en voulait un peu de l'avoir embarqué dans cette galère, mais j'avais une belle histoire à raconter.
Et boy, ça prend beaucoup de résilience pour être capable de dire ça.
Il est un peu masochiste,
un petit peu, je voulais, en tout cas, téméraire.
Oh, il est vraiment spécial. Fin du voyage. J'étais épuisé mentalement. J'ai pris une pause en ne sachant pas si je voulais repartir. J'apprécie mon confort, la douche quotidienne même si je ne la tiens pas pour acquise. Puis je me suis rendu compte que ma soif d'aventure n'était pas assouvie, que j'avais envie de voir autre chose, de retourner dans ma tente. Repartir. J'ai encore un petit stress. N'importe quel changement de vie est difficile. Je sais que repartir, c'est redevenir pauvre et retrouver le fun 2. Ça me tente et j'y travaille. Maintenant, j'ai confiance. Je vais accepter le changement. Alors, peut-être qu'on va relire bientôt Jonathan Bérois dans une autre de ses aventures.
Wow.
C'était l'article « À la rencontre du bon monde » de Jacques Sénéchal dans Vélomag de mai-juin 2018. Alors Marie, tu nous parles d'un papa.
Un papa et d'empathie. Oui, effectivement.
Un papa et d'empathie.
D'un papa et d'empathie.
On va travailler la diphtongue.
Oui, alors donc, des leçons de vie et d'empathie pour mon fils, c'est un texte de Patrick Lemay, publié sur le site tatribu.com et dans le magazine du même nom, le 25 avril. Voici comment Patrick Lemay se décrit lui-même. Il dit de lui qu'il est un papa en garde partagée, photographe de métier, amateur de lecture et d'écriture et, ouvrez les guillemets, légèrement, fermez les guillemets, présent sur les réseaux sociaux. Il dit « J'écoute, j'observe, j'apprends et je critique dans l'ordre. » Je trouve ça très, très intéressant. Mm-hmm. Son texte commence ainsi. Deux anecdotes. Nous entrons au métro Fabre et en haut de l'escalier, il y a une dame toute seule avec une poussette. Scène classique, vue mille fois. Elle se prépare à donner une ride cahoteuse à son enfant. « Regarde, petit loup, que je dis à mon fils. » Et il me regarde offrir mon aide, puis prendre le devant de la poussette pour aider la dame à descendre la gamine à qui je fais des sourires et des grimaces. Une autre fois, encore dans le métro, mais en sortant cette fois, un gars sautille sur une jambe, la cheville grosse comme un ballon de basket. Il souffre visiblement le martyr. Nous arrivons en même temps à l'escalier, pas celui qui est roulant, celui qui donne sur le quai du métro. Je m'approche de lui en tenant mon coco par la main et lui demande s'il a besoin d'aide. Il monte donc l'escalier en s'appuyant sur mon épaule d'une main et en tenant la rampe de l'autre, sautant sur son pied valide. Arrivé en haut, il me remercie et me dit qu'il sera OK, qu'il prendra un taxi jusqu'à l'hôpital. Je pense être une personne avenante qui aime donner des coups de main, mais je peux certainement affirmer que lorsque je me promène avec mon fils, je cherche les occasions. Mon radar fonctionne dans le tapis. J'aime penser que je lui transmets cette notion d'aider sans qu'on lui demande quoi que ce soit. J'aime cette idée qu'il devienne un rayon de lumière dans la journée grise de quelqu'un, qu'il soit en mesure de percevoir la détresse, la peur ou l'anxiété des gens autour de lui et d'y répondre s'il le peut. Comment il se sent, cette personne, tu crois? Est une phrase que je lui demande souvent. Est-ce que tu crois qu'il a apprécié? Si tu vivais la même chose qu'elle, comment ça te ferait sentir? Tu crois qu'il est content ou triste en ce moment? Je veux qu'il soit capable de nommer les émotions, les siennes, mais aussi celles de son entourage, qu'il apprenne à lire le langage non-verbal des gens. J'ai l'impression que l'amener à se poser ces questions l'aidera à voir les autres comme des personnes à part entière et non des figurants dans cette histoire dont il est le personnage principal. Des humains, comme lui, avec des sentiments et des craintes et des désirs et des limites. Qu'ils comprennent que les autres ne sont pas là que pour lui. Qu'ils vivent leur propre histoire dans laquelle ils sont les personnages principaux. À 7 ans, ce n'est pas trop tôt pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres, pour se poser des questions. Avec le temps, je veux qu'il soit en mesure de détecter les malaises, de respecter les limites, de comprendre les non, même non dits, les refus silencieux. Je veux qu'en grandissant, il maîtrise la notion de compte de consentement, que jamais, plus tard, il ne voit l'habillement de quelqu'un comme une permission, que jamais il ne perçoive des messages là où il n'y en a pas, juste parce que ça fait son affaire. Voir les autres comme des humains et non des choses servant à son bonheur, sur lesquelles il peut faire des commentaires, qu'il peut toucher, prendre ou mettre mal à l'aise. Qu'il ne rejette pas ses erreurs sur la faute des autres, qu'il ne fasse pas la leçon avec son gros bon sens, sans savoir de quoi il parle. Qu'il n'émette pas de jugement de valeur pour diminuer les émotions de ceux qui osent se dévoiler. Qu'il donne le bénéfice du doute en croyant les émotions des autres, même s'il ne les comprend pas du premier coup. Que son respect ne se limite pas justement à ce qu'il comprend. Qu'il conçoive que certaines personnes prennent des décisions qu'il ne prendrait pas à leur place et que ce soit OK. Que ça ne diminue pas le respect qu'il éprouve à leur égard du moment où ça n'engage qu'eux. Bref, je veux que mon fils soit capable d'empathie, de bienveillance, de respect. Qu'il soit un phare, un oasis. Parce que baptise. Me semble que ça manque. C'est ce qui nous manque. C'est ce qu'il nous faut. À cette époque où plusieurs ne font pas la différence entre rectitude politique et respect, c'est ce qu'il nous faut. Mon fils, ce garçon déjà sensible et avenant, a fait de moi, je pense, une meilleure personne. Lui rendre l'appareil est mon plus grand souhait. Et on rêve tous d'avoir ce Patrick Lemay comme papa. Je trouve que son fils est bien chanceux.
Et comme ami.
Et comme ami, oui, oui. Tout à fait. Alors, son texte est publié sur le site tatribu.com et dans le magazine Tatribu de avril 2018.
Merci, oui. Marie, pour cette vraiment très belle lecture.
Voilà, merci.
Monique, oui. qui enfile ses lunettes,
oui.
pour une capsule linguistique.
Oui, de M. Guy Bertrand. Alors, les abonnés sont-ils des usagers ou des utilisateurs?
C'est une très bonne question.
Moi, j'ai ma réponse en tête, mais je ne la dis pas.
Dans certains contextes, ces trois mots sont à peu près synonymes. En général, toutefois, il faut tenir compte des nuances qui les distinguent. On aime ça, les nuances.
Oui.
On appelle usager une personne qui a recours à un service public. Mm-hmm. Par exemple, on peut parler des usagers des transports en commun.
Oui, voilà. Oui, c'est ça.
Utilisateur a un sens beaucoup plus large. Un utilisateur est simplement une personne qui utilise quelque chose. Par exemple, les employés qui utilisent les services informatiques de leur entreprise. Quant au mot abonné, il désigne une personne qui profite d'un service par abonnement. Par exemple, les utilisateurs de la banque de terminologie Termium sont des abonnés puisqu'il faut payer un abonnement pour utiliser cette banque. En revanche, les gens qui consultent gratuitement le grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française sont des utilisateurs.
Donc, ça dépend du contexte.
Ça dépend du contexte.
Ça dépend
voilà.
si tu payes ou pas.
Aussi.
Alors, un extrait du dossier « 100 idées pour améliorer le Québec ». Ce sont des idées pour améliorer mon école et ce sont des enfants qui les ont proposées. Maë Berthelet, troisième année du primaire à l'école Caron d'Amqui, dit « J'aimerais jouer vraiment dans la cour. Je voudrais qu'on ait plus de droits dans la cour de l'école, à la récréation. On n'a pas le droit de lancer des balles de neige ni de descendre la glissade sur le ventre. Il faut toujours que ce soit exactement comme les adultes décident et ils décident souvent que plein de choses sont dangereuses alors qu'elles ne le sont même pas. On veut juste jouer tranquille. Mm-hmm. » J'aime bien le point de vue des enfants.
Alors, de mon côté, je vous propose un défi. Ça s'appelle... courir dans la pénombre pour une bonne cause. Venez vivre une expérience unique en son genre en participant à la 6e édition de la Course Lumière, organisée par le Mountain Equipment Co-op, MEC, au profit de l'Association Sport Aveugle du Québec. C'est un rendez-vous le samedi 8 septembre 2018, vous avez le temps de vous pratiquer, à 20h, au Parc Maisonneuve de la Ville de Montréal. L'objectif de l'événement est de sensibiliser la population et d'amasser 8 500 $ pour les différents programmes de l'association. Vous voulez relever un défi? Amasser un minimum de 200 $ en dons pour avoir la possibilité d'être choisi parmi les 10 personnes qui pourront courir le 5 km à l'aveugle accompagné d'un guide coureur formé. Si le défi vous tente, vous allez sur le site de sportaveugle.qc.ca. Allez là, puis... Monique.
Oui, alors écoutez, l'origine du SRAS aurait enfin été découverte. Okay. Et c'est dans une grotte reculée du Yuyan en Chine qu'a émergé le virus du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Et c'est de là donc partie en 2002 une épidémie mondiale qui a fait 800 morts en quelques mois. Des chercheurs de l'Institut virologique de Wuhan y ont identifié une population de chauves-souris porteuses. Et voilà.
Oh, merci Monique. Et avant de partir, un merci à Mathieu. Marie.
Et un mot d'enfant.
Oui.
Muraille, Louis IX dit que c'est le nom du mur quand il est construit par des Chinois.
Et on vous laisse, on vous revient jeudi prochain. Alors, passez.